Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Ce soir, je vais vous parler d'un mythe. En effet, considéré comme l'un des plus grands groupes de l'histoire du rock, précurseur du hard rock, Led Zeppelin est un groupe de rock anglais fondé en 1968 sur les cendres des Yardbirds, après que Jimmy Page eut été lâché successivement par tous ses acolytes. Led Zeppelin, c'est donc Jimmy Page à la guitare, John Paul Jones à la basse et au clavier, Robert Plant au chant et John Bonham à la batterie. Le nom du groupe fait référence à une plaisanterie de Keith Moon, le batteur des Who, qui avait confié à Jimmy Page vouloir justement se barrer des Who pour fonder le plus grand groupe du monde, gonflé comme un ballon plombé. Composé de musiciens virtuoses, le Zep, comme on l'a souvent surnommé, s'est taillé une réputation d'excellence grâce à une discographie riche et éclectique, ainsi que des prestations scéniques époustouflantes, multipliant ainsi morceaux de bravoure technique et longues improvisations inspirées. Mais il faut reconnaître qu'il a aussi longtemps véhiculé une image sulfureuse suite à de nombreux écarts, sur la violence, l'alcool, les drogues. Bref, bien qu'officiellement séparés depuis la mort de John Bonham, leur batteur, survenu en 1980, des suites, et ça vaut son pesant de cacahuètes, d'une intoxication alcoolique aiguë, tout ça pour expliquer qu'il était mort étouffé dans son vomi, les musiciens de Led Zeppelin se retrouvent encore de temps à autre à l'occasion de concerts titanesques. Dans mon esprit, ce jingle contient toute la marque de fabrique de Led Zeppelin. Un riff de basse, reprise de la guitare, une batterie lourde et sèche, avec un battement démoniaque sur la grosse caisse, et la voix au perché et pourtant puissante. Je le remets, faites bien attention à chaque instrument. L'album Led Zeppelin 1, First, il n'a pas vraiment de nom, sort officiellement le 12 janvier 1960. Mais en fait, le groupe existe déjà depuis quelques mois. En effet, au courant de l'été 1968, les Yardbirds ont disparu, ils ont lâché petit à petit Jimmy Page, et Jimmy Page, justement, ne veut pas en rester là. Et il cherche aussitôt à reformer son groupe, sur les cendres, donc encore chaudes, de son précédent groupe. Il sent bien que le contexte musical change. Les Beatles s'essoufflent, les Rolling Stones ont sorti leur remarquable Bigger Bangette qui prend tout le monde un peu au dépourvu, et la scène psychédélique est en effervescence, que ce soit les Américains du Jefferson Airplane ou les Anglais depuis. Jimi Hendrix est en plus passé par là, et il semble déjà d'une autre planète. Et c'est cela qui intéresse Jimmy Page. Qu'est-ce qu'il peut apporter en termes d'innovation pour se démarquer de ses camarades, Eric Clapton avec son groupe Cream, ou Jeff Beck et son Jeff Beck Group? Et tout ça, pour lui, si c'est très représentatif de cette évolution qui est en cours, c'est quand même un objectif à dépasser. Il faut jouer fort, groover dur, saturer les sons, les tempos ralentissent, mais la rythmique s'alourdit, et surtout on s'inspire du blues des pionniers, que ce soit Bo Diddley, Muddy Waters, Willie Dixon. Et on commence à parler à ce propos de musique heavy, ce qui donnera évidemment après le hard rock. Bien préparé par une première tournée scandinave, le groupe entre aux Olympic Studios de Londres au mois d'octobre 68 et plie l'affaire de l'enregistrement de l'album en 36 heures, on croit rêver. Alors là on se dit que ça va être bâclé, eh bien c'est tout le contraire. Le tout possède une cohérence formidable pour un groupe aussi jeune, aussi récent, car si Jimmy Page est le doyen, 24 ans, il ne faut pas oublier que John Paul Jones n'a que 22 ans et Robert Plant et John Bonham seulement 20. Et en effet, la première chose qui frappe d'emblée, c'est le son. Incroyablement novateur pour l'époque, dense mais précis, puissant et chaud. Et plus particulièrement le son de la batterie, qui ouvre le premier morceau de l'album, Good Times, Bad Times. C'est précis, ça claque, et les roulements effectués à la grosse caisse par John Bonham, avec un seul pied s'il vous plaît. D'ailleurs, Jimi Hendrix disait de lui qu'il avait des pieds qui jouaient des castagnettes, et je vous demande de faire attention au final où c'est encore plus évident. Bref, la puissance dégagée est phénoménale. Il suffit d'écouter les disques des groupes considérés comme heavy à l'époque pour voir qu'ils sont tout de suite dépassés. Et là, c'est un véritable déluge sonore, avec une basse groovy, comme on disait, à souhait, c'est-à-dire très lourde, très dense. Guitare furibarde, qui est gueularde, c'est-à-dire qui est vraiment toujours aux limites des sons les plus aigus. Et puis Robert Plant, qui a une espèce de voix un peu à la manière de l'horn anglais, tout en étant capable de pousser des hurlements suraigus que seule une Johnny Joplin, à l'époque, savait faire. C'était Good Times, Bad Times par Led Zeppelin sur OxyWeb Radio. Après la courte mais folle introduction, tout devient calme avec Babe, I'm Gonna Leave You. Une chanson créée par John Baez, qui était à l'époque la muse des folk et hippies de l'époque. Cette chanson date des années 1950. En fait, au départ, Jimmy Page était convaincu qu'il s'agissait d'un traditionnel, avant de découvrir très tardivement qu'en fait, ça avait été composé par une dénommée Anne Bredon, qui était en gros une chanteuse folklorique américaine. Ce morceau instaure un calme bienvenu et surtout surprenant, étonnant par rapport au morceau précédent. On se demande même ce que ça fait là. Mais le groupe établit là une formule qui fera date, à savoir le mélange entre morceaux de rock dur et ballades, véritables slow poignants que ne réuniront finalement pas plus tard les Scorpions, Guns N' Roses ou encore Queen. La structure acoustique électrique fait son effet immédiatement et fonctionne très bien. et ça nous prépare finalement à l'éruption qui ne manquera pas de ressortir bientôt. En plus, la partie acoustique n'empêche pas des interventions brutales et pourtant bienvenues du batteur ou du guitariste électrique, avec les réjouissements du chanteur. En deux morceaux, Led Zeppelin annonce sa volonté de changer les critères du rock en passant du folk quasi celtique au heavy rock tout nouveau. Le pire est que même dans les salles immenses où Led Zeppelin jouait, ils arrivaient à reproduire cette espèce de contraste permanent dans leur panel musical. Savoir passer de la hargne rock à la mélodie folk, c'était bien ça leur marque de fabrique également.
Woman, I know. wonder. It's good to have you back again, and I know that one day, baby, it's gonna really grow. Yes, yeah. We're gonna go walking through the park. When it's calling me back home.
C'était Babe, I'm gonna leave you sur OxyWeb Radio.
So I'm gonna put you down for a while.
On en revient à la source d'influence des musiciens de Led Zeppelin. Voici la chanson You Shook du célèbre bluesman américain Willie Dixon, qui fut reprise d'ailleurs par la plupart des groupes britanniques de l'époque, dont le Jeff Beck Group, et si vous en rappelez, nous l'avions entendu quand on avait présenté l'album Truth. En fait, c'est comme une sorte de rivalité d'adolescents prépubères, si j'ose dire, voulant montrer les uns les autres ce qui les rend meilleurs que les autres. Ici, c'est avec une guitare bourrée d'écho et suramplifiée que démarre le morceau. Mais un monde sépare énormément la version originale, traditionnelle, telle que la voulait dans son approche Willie Dixon, de la version de Led Zeppelin, qui ne garde de blues que la structure. En effet, les effets d'écho de la guitare, la puissance de la batterie et la lourdeur de la basse sont très nouveaux et poussés au maximum à ce moment-là. Je rappelle, on est toujours qu'en 1969 et tous ces effets sonores sont très nouveaux. Et puis il y a le final qui donne un échange suraigu entre les hurlements de Robert Plant auxquels répond la guitare de Page, le tout sur fond d'effet reverse, donnant un côté sombre et menaçant à ce véritable blues.
Me all night long.
C'était You Shook Me de Willie Dixon, interprété par Led Zeppelin, sur OxyWeb Radio.
So I'm gonna put you down for a while.
Et on en arrive au morceau des morceaux de l'album, celui qui survivra au répertoire sur scène jusqu'à la fin du groupe, et même au-delà, puisque depuis, lorsque Jimmy Page et Robert Plant se retrouvent, eh bien ils arrivent encore à l'interpréter ensemble. Et en effet, à peine le temps de souffler des morceaux que nous venons d'écouter, que l'enchaînement se fait sans discontinuer sur le premier classique zeppelinien. La chanson s'appelle Dazed Confused, un morceau grandiose immortalisé par cette ligne de basse hypnotique et menaçante. Par un passage central psychédélique à souhait, en effet, Jimmy Page fait étalage de ses talents en tirant des sons criards et dissonants de sa guitare avec une utilisation un peu particulière d'un archet de violon. Et puis le morceau se termine avec une accélération brutale, doublée d'un solo de guitare que je qualifierais d'assez héroïque dans la notion de guitare héros. Sur scène, le groupe a fait des versions incroyables de ce morceau, consommant parfois un à plusieurs archets selon l'intensité de l'interprétation. Et puis, dans le final, c'était toujours avec la basse et la batterie comme sur le disque en studio, on avait l'impression qu'on allait atteindre la vitesse de la lumière tellement le morceau semblait s'emballer et le solo de guitare allait vers une vitesse étonnante. Et c'était cette marque coup d'éclat justement sur scène qui, je pense, donne le plus clair de la légende de Led Zeppelin et en particulier avec ce morceau « Dazed Confused ». Et quand on pense qu'on est toujours sur la face A du 33 tours.
Been dazed and confused for so long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created for love. You heard and abused, telling all of your lies.
Dazed and Confused par Led Zeppelin sur OxyWeb Radio. À l'époque, lors de la première écoute de cet album, on se disait, bon, après une telle première face, derrière ça va être du remplissage et ça va être du grand n'importe quoi. Eh bien, pas du tout. En fait, c'est peut-être beaucoup moins accessible que la face A, mais avec le recul, c'est certainement la partie où le groupe s'est livré de plus intenses recherches, toujours au niveau des sonorités, bien entendu, et aussi dans la manière d'exprimer ce qu'ils ressentaient tous, à savoir leur passion pour le blues. Et le premier morceau de la phase, Your Time Is Gonna Come, qu'on n'écoutera pas parce que c'est trop long, mais c'était quand même une certaine surprise, à la mesure où déjà le groupe commençait à innover avec un certain nombre d'effets d'orgue, d'effets clavier notamment, grâce à John Paul Jones, qui de ce côté-là tirera toujours le groupe vers de nouvelles sonorités. Et le morceau, le deuxième morceau de la phase B, en fait, c'est Black Mountain Side, et lui, je vous propose de l'écouter. Il est relativement court, il dure un peu plus de 2 minutes, il a été créé par Jimmy Page, mais en fait, il est assez étonnant parce qu'il confirme un peu ce que je disais au départ, c'est-à-dire cette alternance de morceaux, on va dire, de folk celtique, par rapport aux morceaux de hard qu'on a entendus, eh bien, en fait, c'était une manière de montrer qu'avec une guitare acoustique, on pouvait découvrir de nouvelles sonorités et découvrir en fait un nouvel univers. Il faut savoir que Jimmy Page aimait beaucoup le guitariste écossais Bert Jansch, qui justement, dans un de ses albums, notamment Orion, eh bien, justement, a porté cette touche d'innovation chère aux membres de Led Zeppelin. Et on peut dire que lors des albums suivants, il y aura à chaque fois une espèce d'hommage, en quelque sorte, à ce guitariste que Jimmy Page réussira en créant aussi bien un morceau comme Cashmere, qui pourtant n'est pas réputé comme un folk basique, mais amène au contraire, encore une fois, cette utilisation très particulière de la guitare. Voilà, donc je vous propose d'écouter Black Mountain Side. C'était Black Mountain Side de Led Zeppelin sur OxyWeb Radio. Comme vous l'avez sûrement deviné, avec le nouveau morceau, on revient au rock. Je suppose que le jingle vous a donné la puce à l'oreille. Effectivement, le morceau précédent à peine finit, que ça y est, la bagarre reprend entre la batterie, la basse, la guitare et le chant. Et là, effectivement, c'est le deuxième choc auditif, Communication Breakdown, une introduction punk avant l'heure, qui donne envie de secouer la tête dès le départ. Le rythme est martial, rapide, le refrain accrocheur, porté par une ligne de basse mélodieuse et groovy. Ça, c'était le coup de patte tiré de John Paul Jones tout au long justement des différentes productions du groupe. Et le chant de son côté est assez étonnant, assez hallucinant, disons-nous, puisqu'il semble être de la folie pure, et en termes de hargne en particulier. Et Jimmy Page nous gratifie d'un solo très rapide, comme il savait le faire, et le morceau se termine avec des chœurs effectués, chose rare et peu réutilisée dans les albums suivants, par les autres membres du groupe. Et ça, si vous voulez avoir une idée quelle était leur voix, eh bien, prêtez attention à la fin du morceau. Ce morceau, qui pour le coup définit pratiquement ce nouveau son, appelé Heavy à l'époque, que je vous ai fait entendre dès le départ, et qui sera bientôt appelé le hard rock. C'était Communication Breakdown par Led Zeppelin sur OxyWeb Radio. So I'm gonna put you down for a while. Derrière ce morceau, il y avait un blues, I Can't Quit You Baby de Willie Dixon. C'est un blues lent qui était censé calmer un peu le jeu avant le final. Lequel final, en fait, est représenté par une chanson assez longue, plus de 8 minutes. How Many More Times, composé par tous les membres du groupe. Ainsi, place au final de ce fabuleux album qui était en fait une véritable célébration du blues et en même temps du rock'n'roll. Avec ce morceau en particulier, le groupe donne un aperçu de l'alchimie initiale qu'il voulait donner finalement à son panel musical. Pour faire simple, le morceau comporte trois parties. Une première qui semble un rock, où la batterie se trouve au centre des autres instruments, et même la voix lui laisse un peu la place centrale. Et ça, c'est une des particularités de Jimmy Page, qui, dès le départ, donnera à la batterie, dans tous ses enregistrements, une place très importante. Et ça, vous avez sûrement dû le remarquer, on entend très très bien la batterie tout au long des morceaux, et on ne peut pas faire autrement qu'y faire attention. Puis au bout de 3 minutes 50, on croit le morceau terminé, mais c'est alors une farandole à 4 instruments qui semblent rivaliser les uns les autres pour intéresser l'auditeur. Et enfin, c'est le final, l'emballage final si vous voulez, pour une grosse minute où on revient au rock du début avec un retour à l'équilibre entre les instruments, chacun retrouve sa place et on sent que finalement, pour terminer le morceau et l'album, l'équilibre est effectivement atteint. Curieusement, ce morceau n'est pas resté dans la postérité. C'est certainement pour moi un des meilleurs du répertoire de Led Zeppelin. Chacun, je parle des musiciens, y fait étalage de ses talents. En particulier, la place laissée à la batterie, comme j'ai indiqué, John Bonham utilise ici toutes les ressources de son kit avec des modulations de son permises par un enregistrement révolutionnaire, toujours pour l'époque, c'est ce que j'expliquais avec Jimmy Page. Il faut comprendre que ce morceau est construit autour d'un riff de basse, c'est la marque de fabrique du groupe, je vous l'ai dit depuis le début, qui sera ensuite repris par Jimmy Page et sa guitare. Et au final, le morceau, c'est une sorte d'assemblage, un peu comme un bon vin, où on trouve un peu l'inspiration d'Albert King avec un morceau comme The Enter, ou Howlin' Wolf avec How Many More Years, ou encore The Yardbirds avec Shapes of Things. Et qu'à chaque fois, il y a cette espèce de construction réalisée par Jimmy Page, et surtout voulue par Jimmy Page, et qui considère ainsi apporter une véritable innovation. Alors le résultat donne un effet live, c'est-à-dire on a l'impression que le groupe a été enregistré en direct, et cet enregistrement paraît spontané, et ça donne effectivement une énergie d'enfer. Et j'hésite pas à dire que c'est avec des morceaux comme ça qu'on sent la nette différence de ce qui se fera par la suite, avec des choses enregistrées chacun dans son coin, et quelqu'un étant chargé de réunir tout ça sur une bande in fine. Là, on sent vraiment la production à chercher à faire le meilleur morceau possible à partir des contributions de chacun, ce qui fait que ça donne finalement une excellente conclusion à cet album. Et franchement, on se dit, si ça c'était leur premier album, que vont donner les autres? Donc je vous propose d'écouter How Many More Times. C'était How Many Mountains par Led Zeppelin sur OxyWeb Radio. À l'époque, une fois terminée la première écoute de cet album, je me souviens qu'on restait tous un peu KO, un peu groggy après avoir entendu tout ça. C'est là qu'on se rendait compte un peu des effets que pouvait produire l'audition de cet album. À l'époque, on écoutait beaucoup les choses avec des haut-parleurs, et c'est vrai qu'on était capable d'entendre vraiment des choses tellement nouvelles que, encore cette fois-là, on avait l'impression que tout était nouveau. On sentait déjà que ce groupe allait dépasser, on va dire, les registres jusque-là connus. Bon, depuis, on sait qu'on avait affaire à un super groupe. C'est d'ailleurs l'étiquette qui leur restera collée tout au long de son existence. Mais en fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que Jimmy Page était l'orchestrateur de tout ça. C'est surtout le producteur de cet album. Jimmy Page, c'est un vieux requin, comme on disait, des studios. Il l'est depuis longtemps. Il a une longue carrière derrière lui, on va dire, dans la musique. Il a joué avec énormément d'artistes de par le monde. Et il sait exactement comment utiliser studio d'enregistrement comme finalement un nouvel instrument. Et c'est un peu le bilan de tout ce qu'on a écouté depuis le début de l'émission, depuis septembre. En fait, le son qu'a recherché Jimmy Page et qu'il a réussi à obtenir colle l'auditeur contre une sorte de mur musical. Il est parvenu à enregistrer son groupe comme s'il jouait live, et c'est lui qui a donné cette ampleur qu'on a appelée souvent titanesque, aussi bien à la batterie, comme je vous l'ai dit, John Bonham est placé en avant de tout ça. En fait, on sait maintenant qu'il doublait les micros d'enregistrement sur le kit, ce qui donnait plus de relief à la batterie, et ce qui finalement fait dépasser ce qu'on connaît jusqu'alors et qui paraissait indépassable, les Ginger Baker de Cream ou les Keith Moon du groupe des Who. Et finalement, John Bonham, dès ce premier album, eh ben, les a tous mis d'accord. Après cet album-là, qui semblait lui aussi indépassable, on se dit que le meilleur de Led Zeppelin est sûrement passé. Eh ben non, en fait, le reste est à venir. Les albums suivants seront encore meilleurs, au moins jusqu'au cinquième. Là, c'est un avis un petit peu personnel. Le cinquième, qu'on appelle Physical Graffiti, celui-là, pour moi, clôture un peu la grande époque. Après, ils ont produit des choses intéressantes, mais il n'y avait plus pour moi les mêmes sommets atteints à chaque fois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la sauce a pris dès ce premier album. Et avec la pochette même qui reproduit le crash du dirigeable Hindenburg, on repense à la plaisanterie de Keith Moon et son allusion à ce groupe gonflé et plombé. Et on sait dès lors que Led Zeppelin veut conquérir le monde et a commencé par les États-Unis, ce qu'ils parviendront à faire très rapidement. Bref, au bilan. On va dire que cet album laissera des traces pour très très longtemps dans l'esprit de beaucoup. La semaine prochaine, je vous proposerai d'en écouter un autre fabuleux album avec les Rolling Stones et leur album Let It Bleed. On est toujours en 1969 et croyez-moi, cette année 1969, elle n'a pas fini de vous surprendre. En tout cas, d'ici là, roulez blues!